pencher ce matin sur certains épisodes de notre histoire. Un certain nombre d'événements contestés par Franck Ferrand, l'historien d'Europe 1. Il en révèle 5 dans son tout dernier livre. Il veut rétablir la vérité. On a envie d'en savoir plus. C'est un passionné que vous recevez, Michel Drucker.
Franck Ferrand, bonjour. Vous publiez l'histoire interdite, révélation sur l'histoire de France, paru donc il y a quelques jours aux éditions Taillandier. Vous n'y allez pas de main morte. Hein. Quelques questions. Le tombeau des Invalides renferme-t-il les restes mortuaires de Napoléon ou y a-t-il eu substitution du corps lors de son exhumation à Sainte-Hélène? Corneille a-t-il vraiment rédigé les pièces de Molière? Le site d'Alésia se trouve-t-il en Bourgogne? Puis d'autres questions. Jeanne d'Arc a-t-elle été manipulée? Ou y a-t-il une autre affaire derrière l'affaire Dreyfus? Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous allez vous faire des ennemis, là.
Oui, et encore vous, là, Michel, vous posez les questions. Alors que moi, ce que j'apporte, ce sont des affirmations. C'est-à-dire que sur ces sujets-là, vous savez, depuis, pendant des années, sur Europe 1, j'ai eu l'occasion d'en ouvrir des dossiers historiques. Plus de 800, en fait. Sur ces 800, j'en avais gardé 30 de côté que je trouvais extraordinaires et sur lesquels on ne disait pas la vérité aux gens. Et puis sur ces 30-là, j'en ai gardé 5 qui sont les dossiers béton, si je puis dire, les sujets les plus forts. Il faut enfin qu'on fasse progresser la vérité sur ces sujets. Alors c'est vrai que ce sont des sujets qui ont déjà été traités. Un certain nombre de grands spécialistes y ont passé, mais toute une partie de leur vie. Ils s'y sont cassés les dents, ils y ont ruiné leur carrière. Je regrette, ces gens-là avaient raison, il faut le dire, il faut que ça se sache. J'ai envie de dire, il faut faire du bruit autour.
Voilà, il faut préciser que vous ne reprenez pas à votre compte tout ce travail des historiens. Hein, toutes ces thèses, vous ne les faites pas vos thèses. Mais ce que vous voulez, c'est rendre hommage à ceux.
Mais disons que ce sont eux qui ont.
Aux inventeurs. Voilà. Ceux qui ont travaillé.
Ce sont eux qui ont découvert ça avec un travail extraordinaire. Moi, je l'ai fait mienne, évidemment, mais derrière eux, simplement.
Alors, quels sont les éléments qui permettent de douter que le corps de Napoléon se trouve bien aux Invalides?
Oh, c'est très simple. En 1821, on enterre Napoléon à Sainte-Hélène. Et en 1840, on le déterre pour le ramener à Paris et l'enterrer, vous savez, aux Invalides. Mmh. Eh bien, il y avait des témoins au moment de l'inhumation. Il y avait des témoins au moment de l'exhumation. Et quand vous comparez ce que disent ceux de 1821 et ce que disent ceux de 1840, tout est différent. Il n'y a pas le même nombre de cercueils. Les cercueils ne sont pas disposés de la même façon dans le tombeau. Quand vous ouvrez le cercueil, ce n'est pas le même costume, ce ne sont pas les mêmes décorations, c'est pas la même position du corps. Bref, le Napoléon qu'on exhume en 1840 n'est pas le Napoléon qu'on a inhumé en 1821.
Alors, bon, pour tenter d'élucider ce mystère, il convient de se pencher sur les textes que vous avez faits, hein,
oui.
Les documents et les mémoires des témoins de l'époque, encore que les témoins de l'époque n'ont pas tous témoigné.
Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on
bizarrement.
Avait, mais oui, tous ces témoins ont reconnu, enfin, ils ont décrit dans le menu ce qui se passait dans le tombeau de Sainte-Hélène. On a une description extrêmement précise de l'exhumation. Et en même temps, il n'y en a aucun qui dit... Sur le coup, ce n'est pas Napoléon. Pourquoi ? Ben ça, c'est une longue histoire, mais il y a de bonnes raisons. Tous ces gens-là étaient tenus, en quelque sorte, et ils ne pouvaient pas révéler que c'était Napoléon.
Alors,
simplement, je ne dis pas, attention, hein, je ne dis pas que ce n'est pas Napoléon qui est enterré aux Invalides. Je dis simplement qu'on ne peut pas affirmer que c'est lui. Et donc, le seul moyen de le faire, c'est d'entrouvrir un petit peu le tombeau de pseudo-Porphyre des Invalides et d'aller faire un prélèvement. Et ce prélèvement, grâce à l'ADN, il parlera.
Ce serait fiable au jour d'aujourd'hui?
Ah ben avec le génie génétique, bien sûr que c'est fiable. Il faut qu'il y ait plusieurs laboratoires, que tout ça soit contrôlé par l'État, enfin que tout ça soit fait de façon très très officielle. Et évidemment, on aura enfin... Alors, de deux choses l'une. Ou bien c'est Napoléon et on saura de quoi il est mort, ou bien ça n'est pas Napoléon, et ben on enlèvera l'imposteur de cette tombe des...
Il y a déjà une polémique sur les raisons de sa mort aussi.
Alors ça, c'est une autre polémique dans laquelle moi je n'entre pas.
Bon, alors s'il n'est pas aux Invalides, il serait peut-être à Westminster.
Alors ça, c'est une hypothèse, on ne peut absolument pas l'affirmer, mais il est possible qu'il ait été récupéré par le roi George IV, qu'il l'aurait mis dans l'Undercroft de l'abbaye de Westminster.
Qui le haïssait, qui le détestait.
Ah oui, c'est fascinant parce que le roi George IV, que Napoléon n'appelait jamais d'ailleurs que le prince régent, était un personnage très morbide, très bizarre. Il avait d'ailleurs la passion des cadavres et des momies, vous savez. Et il avait une fascination-répulsion pour Napoléon. C'est-à-dire que d'un côté, il le détestait, bien sûr, c'était son grand ennemi. Puis en même temps, il s'habillait en Napoléon, il voulait qu'on l'appelle sire.
On va y revenir longuement, parce que c'est vrai que que Napoléon craignait ça.
Il avait peur, oui.
Il avait peur que son cadavre n'aille en Angleterre, à Westminster. Alors, on va prendre maintenant quelqu'un que vous connaissez bien. Je crois que vous avez été son élève.
Oui, j'étais son élève à Sciences Po. Alors, pas pour les histoires d'Empire, mais pour l'histoire des administrations françaises.
Alors, universitaire, historien, il est l'un des spécialistes français de Napoléon Bonaparte et de l'époque napoléonienne.
Le grand spécialiste.
Conseiller, d'ailleurs, des films. Il a été conseiller d'Antoine de Caunes sur Monsieur N. C'est Jean Tullard. Bonjour, Monsieur Tullard. Alors, Napoléon Pauvre est-il dans le tombeau des Invalides?
Bonjour.
Bonjour, Monsieur Tullard. Bonjour.
Je dois dire que Napoléon est un peu le nouveau serpent de mer. Lorsqu'on manque de sujet, on va chercher l'empoisonnement de Napoléon à l'arsenic, Napoléon fils de Marbeuf, ou, comme vous le posez la question aujourd'hui, l'empereur ne repose pas aux Invalides, c'est son maître d'hôtel, Cipriani. Alors, je ne peux pas vous dire...
C'était ce que racontait d'ailleurs Antoine de Caunes dans son film Monsieur N.
Oui, alors je ne peux pas vous dire que je suis certain à 100% que Cipriani n'est pas aux Invalides, car nous avons cherché sa tombe à Sainte-Hélène, le consul de France et moi, sans la trouver. Et l'aurions-nous trouvé que nous n'aurions pas été plus avancés, puisque les tests ADN n'auraient rien donné, Cipriani était un enfant trouvé, et n'a pas eu de descendance. Les arguments qui sont avancés dans la thèse de Rétif de la Bretonne, différente de la thèse d'Antoine de Caunes, les arguments qui sont avancés sont en faveur d'un enlèvement de la dépouille de Napoléon à Sainte-Hélène et de son transfert à Westminster, où le corps de Napoléon reposerait. Alors là, je dois vous dire que les bras m'en tombent, parce que imaginez que le souverain anglais aurait fait déterrer le cadavre de Napoléon pour le transférer secrètement à l'abbaye de Westminster sur un simple caprice, c'est oublier que l'Angleterre est une monarchie parlementaire, que les ministres, le Parlement auraient été consultés, qu'il y aurait des documents, des allusions, des rumeurs. Alors, bien entendu, on dit, citant les cahiers de Bertrand, que Napoléon a dit « Oh, les Anglais vont s'emparer de mon corps pour le transférer à Westminster ». Oui, peut-être, mais comme trophée de guerre, pour montrer la dépouille de celui qu'ils ont vaincu, le faisant publiquement, mais secrètement, cela ne rime pas à grand-chose. En revanche, la thèse d'Antoine de Caunes était plus séduisante. Cipriani n'était pas mort, car sa mort subite est quasi incompréhensible, il n'était pas mort, et il se substituait à Napoléon pendant que Napoléon s'évader, ce qui fait qu'il y avait à peu près le même nombre de locataires dans la maison, dans la résidence de Longwood. Il s'évadait, Napoléon donc, et il se retrouvait aux États-Unis, où il rejoignait Betsy Balcombe, qui, petite fille, l'avait accueillie. Il l'épousait sous le nom de Monsieur Abeille, et ça, c'est exact, Betsy Balcombe a épousé un Monsieur Abeille, et ils avaient une fille, Laetitia. Et c'est exact, là encore, et Napoléon a couvert de bienfaits Betsy Balcombe. Mais il faut bien voir que dans le film d'Antoine de Caunes, j'ai participé à son élaboration sur les banquettes du Balzac, dans le film, l'officier anglais chargé de la surveillance, qui tout à coup, au moment du transfert des cendres en 1840, croit qu'il a tout compris, c'est-à-dire qu'il éprouve à la fois un sentiment d'amour pour Betsy Balcombe, et donc il ne l'a pas eu parce que c'est Napoléon qui l'a eu, et il se dit, mais oui, c'est très simple, je ne voyais plus Napoléon, je n'apercevais qu'une ombre, c'est Cipriani n'est pas mort. Et à ce moment-là, nous disons bien, on dit bien à la fin du film d'Antoine de Caunes, qu'on n'a pas retrouvé effectivement la tombe de Cipriani.
Franck Ferrand.
Oui, bonjour Monsieur Tullard.
Bonjour.
Vous savez.
Vous partagez cette thèse?
Non, pas du tout. Simplement, sur l'affaire du tombeau des Invalides, c'est parmi les cinq sujets que je traite, l'un des deux pour lesquels on n'est pas de certitude. Effectivement, ce sont des questions qui se posent. Le grand mystère, il se pose entre dans la différence entre le procès-verbal et les témoignages d'inhumation et tous les témoignages que l'on possède de l'exhumation. C'est-à-dire que Napoléon est enterré en 1821, il est exhumé en 1840 au moment de l'expédition des cendres. Eh bien, entre les témoignages d'inhumation et ceux d'exhumation, il y a des différences considérables. Ce sont des différences qui sont recoupées et qui sont consignées par 6 témoins différents. C'est là que se pose la vraie question. Donc il ne s'agit pas, à la limite, de parler sur du sable, de la substitution et de toutes les affaires qui auraient pu naître à cette époque. Ce qui est intéressant, c'est de comparer les témoignages de 1821, les témoignages de 1840, et de se rendre compte qu'il y a bien eu intervention sur la bière. Ça, c'est incontestable. Pourquoi est-on intervenu? Qu'a-t-on fait? Est-ce qu'il y a eu substitution? On ne peut pas le savoir. Mais il y aurait un moyen tout simple de le savoir. C'est simplement d'entrouvrir le tombeau de Pseudo-Porphyre qui se trouve sous le dôme des Invalides et de faire un prélèvement. L'ADN nous répondrait à cette question.
On marque une pause et on reprend ce sujet passionnant avec vous et avec Jean Dulard.
On retrouve Michel Drucker et son invité Franck Ferrand, l'historien d'Europe 1. Franck, qui dans son livre intitulé « L'histoire interdite chez Talandier », nous fait des révélations sur l'histoire de France, Michel.
On revient sur Napoléon. Et ensuite, on va prendre congé de Jean Tulard. La thèse, revenons à la thèse.
Oui, d'origine. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que en 1821, Napoléon donc meurt à Sainte-Hélène au mois de mai. On l'enterre, et au moment où on l'enterre, eh bien, il y a d'abord un procès-verbal qui est établi par le grand maréchal Bertrand, et puis il y a un certain nombre de témoignages. Donc, on sait comment se trouvait l'empereur, comment il était habillé, comment il était disposé dans son cercueil. On sait combien il y avait de cercueils, comment eux-mêmes étaient disposés dans le tombeau. On sait tout ça. Et puis, en 1840. Louis-Philippe réclame les cendres de Napoléon à la cour d'Angleterre. À l'époque, les choses ont évolué. Les Anglais acceptent, ne peuvent d'ailleurs pas faire autrement, ils acceptent de restituer les cendres à la France. On envoie donc une mission sous l'autorité du prince de Joinville et de Rohan Chabot. On envoie une mission à Sainte-Hélène. Et au moment où l'on ouvre le tombeau de l'empereur, eh bien, on se rend compte qu'il y a beaucoup de différences. On se rend compte, par exemple, que le cercueil n'est pas sur des madriers dans le tombeau, mais il est posé à même le sol, avec les sangles qui ont été coincées dessous. On se rend compte que les cercueils sont 4 et non plus 3, qu'il y a 2 cercueils d'acajou, on ne parle que d'un.
Voilà. Alors, au départ, le plancher était brut.
Voilà. Hein, et là, il se trouve derrière le velours, par exemple.
Du velours.
Et tout ça est consigné, par exemple, l'affaire du velours par 4 témoins différents. On nous dit que l'empereur en 1821 portait ses décorations en sautoir sur l'habit.
On dit qu'il avait été rasé entièrement.
Voilà, il a une barbe qui est d'à peu près 5 ou 6 millimètres. Ouais. Alors certains ont évoqué la
bouche est même entrouverte alors qu'au départ elle était fermée.
Exactement, elle avait été fermée par une mentonnière. Ça aussi nous l'avons de 2 témoignages. Certes celui d'Antomarquis qu'il faut toujours prendre avec des pincettes, mais aussi celui de Bertrand.
Bref, il y a même 3 dents de l'empereur qui apparaissent.
Exactement.
En très bon état, ce qui n'était pas le
et
cas
puis, le chapeau qui se trouvait sur les pieds se trouve au niveau des cuisses, et puis les vases d'argent qui contenaient les viscères et qui avaient été placés de part et d'autre des chevilles au moment de l'inhumation se retrouvent bien sagement installés entre les cuisses au moment de l'exhumation. Et d'ailleurs, on a été obligé de fléchir les jambes du cadavre parce que il ne logeait pas dans.
Puisque vous parlez des jambes, les bas de soie ont disparu.
Les bas de soie ont disparu. Le bout des bottes a été symétriquement décousu, c'est-à-dire que ça n'est pas de l'usure. Hein. Alors on a prétendu que certains ont dit que les ongles des pieds de l'empereur avaient poussé et crevé les bottes. Absolument pas. Personne ne parle de ça. Ça, c'est une légende qui est née bien plus tard. Je ne vais pas entrer dans tous les détails. Simplement, il y a un très grand nombre de différences qui font penser que cette tombe a été ouverte et que le cercueil lui-même a été ouvert. D'ailleurs, les cercueils ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors, nous n'allons peut-être pas entrer dans la querelle des cercueils. C'est assez passionnant pour tout vous dire. Mais on se rend compte donc qu'il y a eu intervention. Pourquoi ? C'est là que se pose la question. Moi, je n'affirme rien. Je demande simplement qu'on aille vérifier maintenant dans le tombeau des Invalides.
Jean Tulard, votre professeur, il est toujours en ligne. Qu'est-ce que vous dites de tout ça, Jean Tulard ?
Alors, je n'exclus pas l'hypothèse qu'il y ait eu une ouverture de la tombe à un moment donné dans le cadre limité de Sainte-Hélène pour une vérification quelconque dont il pourrait exister un procès verbal dans les archives de Sainte-Hélène, mais qui ont disparu. C'est tout ce que je peux dire. Bien sûr, comme le suggère très justement mon jeune disciple, la solution, c'est le test d'ADN
voilà.
sur le corps qui repose aux Invalides. Mais je sais très bien, pour avoir été mêlé à l'affaire du cœur de Louis XVII, que cela ne résoudra aucun problème, parce que les mêmes tenants de la thèse de Cipriani diront ou bien que le test ADN a été mal fait, ou que c'est très différent la disposition du corps lorsqu'on l'a déposé aux Invalides et aujourd'hui, et que on a probablement substitué dans le tombeau récemment au corps de Cipriani, celui du roi Jérôme qui repose à côté, car l'imagination est sans limite à partir de petits faits. Et
Là, je vous rejoins. et c'est vrai que l'affaire avec Philippe Delorme, l'affaire de l'ADN sur le cœur du dauphin, n'a effectivement rien résolu, puisque énormément de polémiques sont nées de cette analyse même. C'est
au
vrai.
Au contraire de mon rapport très savant, est née une confusion encore
tout
plus
à fait,
grande.
Oui.
Voilà. Mais je voulais quand même féliciter mon disciple pour la clarté de son exposé. Il est bien plus clair que les auteurs qu'il résume.
Merci
et
beaucoup.
Plus convaincant.
Merci beaucoup, Jean Tullard. Merci encore.
Le tombeau des Invalides renferme-t-il les restes mortuaires de Napoléon ou y a-t-il eu substitution du corps lors de son exhumation à Sainte-Hélène? C'est un des dossiers rouverts par Franck Ferrand dans son livre L'Histoire interdite, Michel Drucker.
Franck Ferrand, revenons à cette question mystérieuse. Mais les témoins à l'exhumation, qu'est-ce qu'ils ont dit alors?
Mais alors ça, c'est fascinant.
Il y en avait beaucoup de témoins.
Au moment où Louis-Philippe décide qu'on va sortir Napoléon de son tombeau pour le ramener en France et pour lui donner des obsèques nationales, etc., aux Invalides, il envoie sur place un certain nombre des personnes qui se trouvaient compagnons d'exil de l'empereur à Sainte-Hélène. Mmh. Ces gens-là assistent tous à l'exhumation qui a lieu de nuit, parce que les Anglais ont exigé que l'exhumation ait lieu de nuit, qu'on ne puisse pas s'approcher de la bière à moins de 6 pieds. Enfin, ils ont pris toutes les précautions possibles. Ces gens-là sont tous présents. Or, personne, il faut le reconnaître, ça c'est incontestable, personne n'est intervenu, personne n'a dit ce n'est pas Napoléon que nous avons sous les yeux.
On n'a rien vu, ils n'ont rien vu.
Eh bien alors là, c'est une affaire qui serait très longue, mais qui est passionnante, et à laquelle peut répondre la question du masque mortuaire de l'empereur. Tous les témoins, tous les gens qui étaient là, avaient authentifié le fameux masque dit antomarquis, qui est un masque mortuaire de Napoléon. Ils l'avaient authentifié comme étant le masque de l'empereur, l'empreinte mortuaire prise sur la face de l'empereur une fois mort. On sait aujourd'hui que c'était un faux, on sait que c'était une vaste supercherie, et que le masque mortuaire en question n'est pas celui de Napoléon. Mais à partir du moment où tous ces gens, pour des raisons bonnes ou mauvaises, simplement, enfin essentiellement pour défendre la mémoire de l'empereur et pour donner de lui une image plus flatteuse dans la mort, à partir du moment où tous avaient dit que le masque antomarquis était bien le masque mortuaire de l'empereur, il leur était très difficile, au moment où on ouvrait la tombe, d'aller dire en public qu'il n'avait pas l'empereur sous les yeux.
Le rôle du général Gourgaud.
Ah ben alors Gourgaud, lui, vous savez, il fait partie de ceux qui naviguent un peu en eau trouble.
C'est l'aide de camp, hein,
oui.
Philippe.
Et ben c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, après
c'est lui
avoir...
qui s'interpose lorsque certains assistants parlent de soulever le corps et de sortir les vases d'argent qui contiennent les viscères.
Après avoir servi si fidèlement Napoléon, mais là aussi il y aurait beaucoup à dire, il est devenu l'aide de camp de Louis-Philippe. Il est le représentant, si je puis dire, du nouveau régime en place. Mmh. Il ne faut pas oublier qu'il y a, au moment de cette exhumation de l'empereur, une tension internationale considérable, que la France est au bord de la guerre avec l'Angleterre, parce qu'il y a eu, à propos d'une affaire en Égypte, peu importe, et qu'on est dans une situation diplomatiquement très très explosive. Et les consignes du gouvernement ont été très fortes, il ne faut pas faire de vagues, il ne faut pas gêner les relations avec Londres.
Petite question technique, lorsqu'on ouvre le cercueil, on l'ouvre pas plus de 2 minutes, moins de 2 minutes.
Oui, alors c'est ça, les Anglais nous obligent.
Moins de 2 minutes, hein.
Alors déjà,
pour
oui,
tout voir.
Il faut être loin, c'est de nuit, et ça dure moins de deux minutes. Donc c'est rien du tout. Simplement, pendant ces 2 minutes, il y a 6 personnes qui se trouvaient là, des Français, qui ont donner leur relation de ce qu'ils ont vu. Et quand on compare leurs témoignages, tous ces témoignages se recoupent. Donc, il n'y a pas de doute sur ce qu'ils ont vu. Et ce qu'ils ont vu n'a rien à voir avec ce qu'avaient vu les personnes qui se trouvaient au moment de l'inhumation de l'empereur.
Parmi les éléments qui permettent de douter que le corps de Napoléon se trouvait bien aux Invalides, il y a ce qu'a dit Napoléon peu de temps avant sa mort. Il disait « La seule chose à craindre est que les Anglais ne veuillent garder mon cadavre et le mettre à Westminster. »
Oui, alors ça, évidemment...
Il avait des raisons de craindre ça.
Oui, Napoléon était quand même assez visionnaire. Moi, j'ai tendance à souvent écouter ses indications. On se rend compte que sur les situations les plus variées, il jouit généralement d'une clairvoyance assez étonnante. Mais en l'occurrence, il avait de bonnes raisons parce qu'il savait à quel point le roi d'Angleterre de l'époque, qu'il appelait lui le prince régent, le roi d'Angleterre George IV, un, le détestait, et deux, était fasciné par lui. Et trois, avait une collection de cadavres. Ce qu'il ne faut pas oublier, il était thanatophile, il adorait tout ça. Donc, il n'est pas... Alors moi, je n'affirme rien. C'est une hypothèse. C'est effectivement l'hypothèse qui a été avancée par Georges Rétif de la Bretonne en 1969, au moment du bicentenaire de la naissance de l'empereur. Moi, je ne le suis pas forcément sur ce terrain, mais Rétif de la Bretonne nous dit qu'il est possible que le roi d'Angleterre, George IV, ait voulu, pour sa collection de momies et de cadavres, ait voulu récupérer celle de son espèce de d'idole, mais en même temps d'idole répulsive, qui était Napoléon. C'est une possibilité, ce n'est pas du tout une certitude, mais en tout cas, ça expliquerait ce qui fait, ça expliquerait pourquoi l'ancien gouverneur de Sainte-Hélène, qui s'appelle donc Sir Hudson Lowe, est rentré exprès de Ceylan, est passé par Sainte-Hélène, où il a passé 5 jours et 4 nuits, est rentré avec le corbillard de l'empereur, on est en 1828, à Londres, ce corbillard ayant été complètement recouvert d'un immense drap noir pour la circonstance, comme si on avait voulu cacher quelque chose. On n'en sait pas plus. Le corbillard en question, il a été offert plus tard, en 1855, par la reine Victoria à la France, et nous l'avons aujourd'hui, nous, en France.
Revenons aux conditions et aux raisons précises de sa mort, même si c'est pas le sujet. 1817, premier signe d'une hépatite, c'est ça?
Oui, chronique. Tout à fait. Oui. Alors ça, disons que il a eu.
Il arrive en 1815. Hein, d'abord.
Oui, bien sûr. Ben après Waterloo, donc, hein, Napoléon, vous savez qu'il avait demandé l'asile à l'Angleterre. L'Angleterre lui a refusé cet asile. On l'a passé d'un bateau sur l'autre pour le renvoyer vers Sainte-Hélène. Il débarque à Sainte-Hélène avec ses compagnons et effectivement, il commence. Alors sa santé commence à décliner assez vite, en fait. On peut dire que il est à partir de l'automne 1817, il est pas bien. Il manifeste
des signes d'une
hépatite chronique. Une petite amélioration. Effectivement fin 1819 et puis un an plus tard une dégradation. Alors il a un médecin à l'époque avec lui qui est Antomarchi, hein, qui est un médecin corse
oui.
Qui a été envoyé par sa mère par son oncle, et en fait ce médecin n'est pas bon médecin du tout, c'est le moins qu'on puisse dire, et Napoléon va mourir en mai 1821. Il n'a que 51 ans.
Il paraît qu'il en fait 10 de plus.
Il avait l'air d'être vraiment un vieillard, il était en très mauvais état. De quoi est-il mort? C'est un sujet sur lequel moi je ne me prononce pas. Vous savez qu'un très grand nombre de spécialistes pensent qu'il a été empoisonné, mais ça, c'est une autre affaire.
On va revenir à ce beau sujet passionnant après les informations de 10 ans.
Va faire du bruit et son auteur va sans doute se faire quelques ennemis. Nous accueillons jusqu'à 11h Franck Ferrand, que nos auditeurs connaissent bien et qui publie chez Talendier l'histoire interdite avec des révélations extrêmement documentées sur des sujets très sensibles de notre histoire, de l'histoire de France. Franck Ferrand a donc entrepris de rétablir la vérité historique sur un certain nombre de questions. Quelle autre affaire cachait l'affaire Dreyfus? Jeanne d'Arc était-elle manipulée? Le site d'Alésia se trouve-t-il bien en Bourgogne? Corneille a-t-il rédigé les pièces de Molière? Ou encore, le tombeau des Invalides renferme-t-il les restes mortuaires de Napoléon? On en parlait juste avant les infos, Michel Drucker.
Franck Ferrand, alors revenons encore pendant quelques instants à cette question qui fascine le monde depuis bien longtemps. Qui était dans le cercueil si ce n'est pas Napoléon?
Oui, tout à l'heure, Jean Tullard parlait de serpent de mer. Ça, pour tout vous dire, ça mérite toujours un peu que les professeurs, les représentants d'un certain nombre de hautes institutions ne veuillent pas qu'on élucide un certain nombre de questions. Et dès que vous revenez avec des sujets qui certes ont été traités, qui certes ont déjà fait l'objet de polémiques, on vous dit « Oh, ça y est, c'est le serpent de mer, c'est le sujet qu'on sort quand on ne sait pas quoi dire. »
C'est ce qu'on va vous ressortir pour votre
mais
livre.
Oui, hein. Et ben je regrette, ce n'est pas le cas. Si j'ai sorti, vous savez, sur plus de 800 dossiers que j'ai traités ici même à Europe 1, j'en avais retenu 30, et sur les 30, j'en ai gardé que 5. Pourquoi ? Parce que ce sont 5 dossiers majeurs sur lesquels on a des éléments extrêmement probants et que personne ne veut faire avancer la vérité sur ces sujets. Donc ce ne sont pas des serpents de mer, ce sont simplement des énigmes qu'il va falloir accepter un jour ou l'autre de résoudre puisqu'on en a les moyens. Alors, et là, le moyen, c'est tout simplement d'ouvrir le tombeau des invalides.
Alors, je vous repose la question. Je vous repose la question suivie d'une seconde. Première question, qui était dans le cercueil, c'était pas Napoléon, et où serait le corps de Napoléon?
Alors, ce sont deux questions sur lesquelles il est très difficile de répondre. Autant on peut affirmer que le tombeau de l'empereur et ses cercueils ont été ouverts, ça c'est une certitude. Le reste, est-ce qu'on peut savoir un qui est dans le tombeau actuellement aux Invalides? C'est très difficile à savoir. Il est possible, c'est une hypothèse qui a été formulée, que ce soit son frère de lait et néanmoins maître d'hôtel à Sainte-Hélène, qui s'appelle les Cipriani Franceschi.
Un petit mot, Priani.
Alors, Cipriani était donc, il servait de maître d'hôtel à Napoléon. En 1818, il trahit l'empereur. Napoléon s'en rend compte, refuse de lui adresser la parole et le pauvre Cipriani est quasiment poussé au suicide. Il va s'empoisonner lui-même à l'arsenic en 1818. Il disparaît dans des circonstances assez fâcheuses d'ailleurs et sur lesquelles, comme par hasard, on revient rarement.
Il paraît que son masque, ce serait...
C'est ce masque-là...
Voilà, son empreinte mortuaire qui expliquerait les différents physiques.
C'est-à-dire que cette empreinte mortuaire de Cipriani a été prise à l'époque par un médecin au Mira, et c'est cette empreinte qui sert par la suite de modèle à Antomarchi pour faire le masque de mort officiel de Napoléon. Un vrai masque en revanche.
Mais le docteur Antomarchi, qui est un ami de sa maman corse, il devait tout savoir.
Hein. Ah, mais évidemment, lui, il était parfaitement au fait de toute l'histoire et il n'était pas le seul.
Des gens comme
Bertrand le savaient très bien également. On a un certain nombre de témoins qui étaient parfaitement au fait de toute cette histoire et qui se trouvaient donc dans une situation bien embarrassante quand on a ouvert le tombeau et qu'on s'est rendu compte que c'était le même visage qui se trouvait à l'intérieur du cercueil. Où serait Napoléon pour répondre à votre deuxième question?
À Westminster.
C'est une possibilité. Si l'on imagine que le roi George IV a voulu, à titre personnel, et tout à l'heure Jean Tullard nous parlait de vote au Parlement, etc. Inutile de vous dire que c'est le genre d'affaire qui se fait dans le plus grand secret, qu'on n'est pas du tout dans les opérations officielles.
Il n'y a pas de paparazzi.
Si George IV sait faire rapatrier pour lui le corps de Napoléon, alors il y a une chance, mais encore une fois, ça c'est une supposition, il y a une chance pour qu'il soit dans l'Undercroft de l'abbaye de Westminster, dont seule la reine d'Angleterre possède la clé aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'elle nous la confie pour ouvrir et aller vérifier.
Les polémiques continuent. Il y a même quelqu'un qui a dit que Napoléon était d'origine bretonne.
Oui, alors c'est vrai que ce que disait tout à l'heure Jean Tullard est vrai. Ce qui m'a un peu irrité, c'est de me retrouver mis dans le même sac. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de polémiques complètement aberrantes qui reviennent constamment. Et c'est un peu comme Jeanne d'Arc, vous savez, on fait
on va y venir
tout
à Jeanne
n'importe
d'Arc
quoi.
Tout à alors, la cause de sa mort. Des années après, ça fait encore l'objet d'une controverse. Hein. La version officielle, il serait mort d'une mort naturelle.
Oui, il est mort d'un cancer.
Série de mots liés, hépatite
cancer et cancer, etc. Oui, ça c'est la version officielle. Et quand vous lisez aujourd'hui les bios de Napoléon, vous vous rendez compte que c'est la thèse qui très généralement est admise et répercutée constamment.
Mais on parle depuis 50 ans d'empoisonnement. Mais
exactement, des gens comme Forrest Fudd, comme Ben Wedder, évidemment.
C'est la tête de Jean Tullard.
Ce que dit Jean Tullard, et il est très sage sur cette question, c'est pour ça que je suis ravi qu'il approuve. Jean Tullard dit, écoutez, c'est assez simple, regardons ce qu'il y a dans le tombeau des Invalides, ouvrons-le, vérifions, et de deux choses l'une. Ou bien c'est Napoléon, et on saura de quoi il est mort, ou bien ça n'est pas lui, et à ce moment-là, l'imposture sera démasquée. Et moi, je ne dis rien d'autre, je suis totalement de cet avis.
Alors, vos confrères vont vous tomber dessus, là.
Ah oui, ben ça y est déjà, comme vous pouvez le constater. Vous savez... On n'a pas le droit, en France, d'émettre un certain nombre de vérités un peu déplacées, décalées. À partir du moment où vous remettez en cause les grands mythes ultra établis, à partir du moment où vous faites un minimum vaciller un certain nombre de statuts, vous avez tout le monde qui vous tombe dessus. Et le pauvre rétif de la Bretonne en 69, je ne vous dis pas ce qu'il a subi.
J'imagine. Alors, Franck Ferrand, parmi vos révélations sur l'histoire de France, hein, votre livre qui est paru chez Taillandier, il n'y a pas longtemps.
Chez Taillandier, la semaine dernière, oui.
Voilà. Alors, il y a également Molière et Corneille.
Alors ça, c'est mon grand, c'est ma marotte, si je puis dire.
On va avoir Jean-Laurent Cochet tout à l'heure, metteur en scène, professeur d'art dramatique, comédien de théâtre, de cinéma, qui connaît très bien tout ça. Alors, Corneille a-t-il rédigé les pièces de Molière ?
La première fois qu'on m'a dit ça, j'étais complètement dubitatif, c'est le moins qu'on puisse dire. J'étais parti faire une conférence pour remplacer une amie en Belgique, et la personne qui me reçoit, c'est Hippolyte Wouters, me dit, vous savez, j'ai écrit un livre qui s'appelle Molière, l'auteur imaginaire. Je me suis dit, voilà encore quelqu'un qui nous raconte un peu n'importe quoi, il fait partie de ces fous qui considèrent que Corneille a écrit les pièces de Molière. Et puis j'ai lu son livre, ça m'a intéressé, j'en ai ouvert d'autres, je suis allé fouiller, j'ai lu une littérature surabondante, j'ai eu accès, et ça c'est passionnant, au papier de à la thèse de Pierre Louis, car c'est Pierre Louis qui en 1919 a le premier émis cette thèse, et c'est d'ailleurs une grande partie de ces papiers ont été publiés il y a 2 ans maintenant par messieurs
Goujon
et Lefray.
Qui était Pierre Louis?
Alors Pierre Louis, c'est un très grand poète, vous savez, c'est l'auteur des chansons de Bilitis, c'est un de nos très grands écrivains de la Belle Époque. Simplement, c'était aussi un immense érudit, quelqu'un qui connaissait mais sur le bout des doigts toute la littérature du
XVIIe
siècle.
C'est lui qui est le premier,
oui.
Donc à attribuer la paternité des plus beaux des écrits de Molière à Corneille.
Exactement. Il relisait pour la énième fois Amphitryon. Il s'est dit, mais c'est pas possible. Ce vers, cette façon d'écrire, cette façon de scander l'alexandrin, cette extraordinaire construction-là, ça ne peut pas être autre chose que du Corneille. Alors il a creusé la question, il est allé chercher dans toute cet extraordinaire fond dont il disposait, et il s'est rendu compte qu'en fait, il y a un très grand nombre de scènes des pièces de Molière qui étaient de la main de Corneille. Mais seulement quand il l'a dit, c'était dans le journal Le Temps à l'époque, en 1919, ça a fait un scandale, mais terrible, un tel scandale que le pauvre Pierre Louis, il a été complètement bousculé par cette affaire, il a été obligé de se renfermer dans sa tour d'ivoire, car dès qu'il ouvrait la bouche, c'était immédiatement des huées, des ignominies. Et il en est mort de chagrin en 1925 sans avoir pu défendre vraiment sa thèse. Or, ce que disait Pierre Louis, et c'est ça que je voudrais vraiment faire comprendre aux gens, c'est fondamental, il y a là une très grande découverte à faire admettre, c'est que l'affaire Corneille-Molière, c'est-à-dire le fait que Corneille ait écrit une partie des pièces de Molière, ce n'est qu'une partie secondaire de toute cette histoire. Cela veut dire surtout que Corneille a écrit une œuvre très considérable, qui va très 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 au-delà de toutes ces grandes tragédies qu'il avait écrites jusqu'ici, et que nous possédons en Corneille. Avec ce million de vers qu'il avait écrit, nous possédons le plus grand auteur du XVIIe siècle en France, l'équivalent de Shakespeare pour les Anglais, ou de Cervantes pour les Espagnols.
On y revient dans un instant, on va faire une petite pause musicale, et on va prendre en ligne Jean-Laurent Cochet.
Alors, nouvelle polémique, Corneille a-t-il rédigé les pièces de Molière? C'est Franck Ferrand qui pose la question dans son livre L'Histoire interdite. Et Michel, vous allez avoir maintenant le point de vue d'un professionnel du théâtre.
Jean-Laurent Cochet, bonjour.
Bonjour.
Merci, monsieur Cochet. Merci de patienter gentiment. Alors, vous êtes professeur d'art dramatique, metteur en scène. Vous êtes l'une des figures les plus incontournables du théâtre français. Et vous avez signé plus de 150 mises en scène. Vous avez joué près de 300 rôles. Et le cours Jean-Laurent Cochet est un cours mythique. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ça? Corneille a-t-il rédigé les pièces de Molière? C'est votre avis?
Oh, mais absolument. Il y a longtemps que j'en étais persuadé, par mon métier même, le fait de diriger des comédiens, quand je montais les pièces de Poquelin, on devrait dire maintenant, et que je dirigeais les élèves, ça m'a, indépendamment de tout ce que Boucher et Franck Ferrand, merveilleusement, ont défini dans leur livre comme preuve annexe au style, mais je me réfère d'abord aux deux vers de Boileau, hein, dans ce sac ridicule où Scapin s'enveloppe, je ne reconnais pas l'auteur des Misanthropes, ça a été dit une fois pour toutes, et quand j'en parlais à mes grands maîtres, moi-même, parce que je commençais à être un petit peu étonné de cette différence de style, de tout ce que... Bon. Et Madame Dussane m'avait répondu, j'ai écrit un livre qui s'appelle Un comédien nommé Molière, et on pourrait dire un point c'est tout, parce que à cause de la frilosité, à cause de l'ignorance, à cause de l'inculture des gens, on ne pouvait plus déboulonner cette statue. On ne la déboulonne pas, on rappelle qu'il est un grand comédien, un grand chef de troupe, un grand animateur.
Sauf qu'il n'a pas écrit la plupart des épines.
Oui, mais ça n'a rien à voir, il ne le prétendait pas. Ça a été une espèce de, comme ça se faisait beaucoup en collégial à l'époque, même les premières qui sont si mauvaises, il les a peut-être écrites sur des canevas. Alors, du Pont-Neuf en collaboration avec Louis Béjart et des gens comme ça. Tout dans l'œuvre de Corneille révèle qu'il est l'auteur des plus grandes pièces.
Alors, Jean-Laurent Cochet, il y a beaucoup de coïncidences frappantes entre Molière et Corneille, tant biographiquement, je devrais dire, que géographiquement, que stylistiquement. Puisque je parle géographiquement, il y a Rouen.
Bien sûr.
La patrie de Corneille.
Bien sûr, avant tout. Mais ça a été démontré depuis Louis, mais surtout avec Wouters, et puis nos deux récents, et Franck Ferrand, surtout. Toutes ces choses-là sont des preuves, j'allais dire, accablantes. Non, il ne s'agit pas d'accabler Molière, surtout pas. Il s'agit avant tout de remettre Corneille à sa grande place, du grand auteur du XVIIe. Molière a certainement participé dans ce qu'il y a, non pas de moins bon, mais de plus trivial, même dans ses grandes pièces. Il est certain qu'il a dû s'amuser à écrire les scènes des paysannes dans Don Juan, qu'on a envie de couper quelquefois tellement elles sont peu intéressantes, ou la scène de Monsieur Dimanche, que Chéreau avait coupé d'ailleurs, ou bien d'autres choses comme ça. Mais quand on travaille surtout sur le style, Molière, en tant que comédien, a dû apporter énormément dans leur collaboration à Corneille, mais il n'a pas, indépendamment du temps, on le sait maintenant, il n'aurait pas pu faire le tiers de son œuvre avec les responsabilités qu'il avait à la cour en tant que bouffon, etc. Mais dans les styles, puis il ne faut pas oublier que les premières pièces de Corneille sont des comédies éblouissantes, il a traité tous les styles.
Mais Molière, la troupe de Molière a joué du Corneille devant le roi.
Oui, bien sûr, ils ont joué beaucoup de Corneille. Beaucoup, puisque justement, le dada de Molière, c'était de jouer la tragédie jusqu'au moment où le roi lui a dit ah non, plus de ça. Le roi qui n'aimait que les farces, d'ailleurs, et car il était très mauvais en tragédie. Alors qu'il était parti d'étourdissant, je veux bien le croire, en comédie. C'est pour ça qu'il y avait un apport personnel en tant que comédien.
On rappelle que Molière jouissait de la faveur du roi.
Ça lui avait
eu un appui considérable.
Énormément d'argent.
Mais aussi une cascade de commandes.
Oui, bien sûr.
Donc beaucoup d'argent.
Et beaucoup d'argent, et c'est pour ça que Corneille, sans qu'on s'en étonne, ait pu en profiter, puisqu'il avait été lui-même disgracié, qu'il avait besoin de cet argent-là pour sa famille. Tout ça se tient extraordinairement. C'est étonnant, même qu'on ait pu occulter ça pendant tant d'années, alors qu'à l'époque, ça paraissait des choses normales, comme les entreprises collégiales du monde Shakespeare,
Jean-Laurent Cochet, je vous remercie infiniment d'avoir été, en ligne avec nous. Je sais que vous avez un train à prendre. Je vous remercie infiniment.
Merci.
Au revoir, Jean-Laurent Cochet. Alors, Franck Ferrand, revenons sur cette filiation, sur ces coïncidences. Il y a eu deux séjours de Molière à Rouen, le fief de Corneille. Mm-hmm. C'est au deuxième séjour, qu'il cesse de s'appeler Poquelin, vous appelez Molière.
Alors le premier séjour en 1643, effectivement, quand il rentre, Poquelin est dans la troupe de Madeleine Béjart depuis très peu de temps. Et quand il rentre, il a effectivement son nouveau pseudonyme. Il s'appelle Molière, entre parenthèses, comme le dit bien Denis Boissier. Denis Boissier a beaucoup étudié ces questions. Il a un magnifique manuscrit qui fait 900 pages extraordinaires, qui n'est pas encore publié, j'espère qu'il le sera bientôt. Comme le dit Boissier, ce Molière sans accent, ça vient du verbe français, du vieux verbe moliéré, qui voulait dire légitimer. C'est intéressant quand même. Bon, mais ça c'est en 1643. Surtout, ce qui est très extraordinaire et très probant, c'est qu'en 1658, la troupe ambulante des saltimbanques de l'illustre théâtre, avec Madeleine Béjart et avec Jean-Baptiste Poquelin, se trouve en tournée dans le sud-est de la France. Ils sont à Grenoble et d'un seul coup, sans aucune transition, ils traversent l'intégralité du royaume sans donner une seule représentation et ils viennent s'installer à, ce que nous dirions nous, 100 mètres de la rue de la Pie où habitent les frères Corneille. Vous savez que Corneille, à l'époque, n'a encore jamais bougé de Rouen. Il est le grand auteur rouennais par excellence. Et comme par hasard, Molière va vivre là pendant 7 mois avec la troupe à quelques encablures de la maison de Pierre Corneille. Jusqu'ici, ça a été un saltimbanque qui a joué sur des tréteaux de foire, des espèces de farces dont je préfère ne même pas donner d'éléments. C'est vraiment quelque chose de très... C'est très banal, c'est très vil ce qu'il a fait. Et d'un seul coup, le même bonhomme se retrouve comme... Il arrive à Paris, au bout de 7 mois. Il arrive à Paris, il est comédien ordinaire de Monsieur Frère Unique du Roi. Il joue la tragédie et bientôt la comédie devant la cour, devant Louis XIV, et avec des pièces sublimes, notamment des pièces comiques. Oui. Je pense à l'Étourdi, je pense aux Précieuses Ridicules, d'ailleurs, qui sont écrits dans des vers lumineux.
C'est vrai, comment Molière s'y prenait pour travailler autant, car en plus ses activités annexes, directeur de troupe,
ben bien sûr,
courtisan du roi,
ben oui,
pour écrire des
livres. Ben il est valet de chambre de Louis XIV. Il est donc tous les matins au lever du roi. Il dirige une troupe qui a entre 50 et 60 comédiens. Ouais. Il joue jusqu'à 400 représentations
par an.
On peut
pas tout faire tout seul.
Mais c'est pas possible.
On va retrouver Michel Drucker en compagnie de Franck Ferrand pour son ouvrage L'histoire interdite chez Talendier. On va revenir sur une des thèses du livre qui concerne l'œuvre de Molière.
Franck Ferrand, donc apparemment il y a pas de doute, hein, Corneille a travaillé beaucoup pour Molière. Quel était son intérêt financier?
Alors, il y avait plusieurs intérêts. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en 1658, quand Corneille retrouve Molière, ça fait 6 ans qu'il n'écrit plus pour le théâtre. Pourquoi ? Parce que sa dernière tragédie, qui s'appelait Pertari III des Lombards, a été un four. Il n'a même pas les précieuses l'ont complètement enterré. Tout ça s'est très mal passé. Il a décidé qu'il se retirait du théâtre et il vit en traduisant des vers religieux. Hein. Il traduit à l'époque l'Imitation de Jésus-Christ. Et puis débarque Molière. Or, pendant ce temps, Corneille a très probablement continué à écrire, et probablement continué à écrire des comédies, car ce qu'on oublie de dire souvent, c'est que les 9 premières pièces de Corneille ne sont pas des tragédies, c'était des comédies. Simplement, en 1636, il a seulement 30 ans, Corneille écrit le Cid. Et le Cid, c'est un succès fabuleux, époustouflant, c'est le plus grand succès de toute l'histoire du théâtre. Corneille est non seulement anobli, mais c'est son père qui est anobli, afin que lui soit considéré d'emblée comme noble. C'est que quand Corneille entrait dans une salle, tout le monde se levait, comme pour la famille royale. Il est figé, statufié de son vivant dans la pose du grand poète national. C'est donc un personnage considérable. Et il n'a plus, vous savez qu'au XVIIe siècle, il y a une hiérarchie des genres. C'est-à-dire que tout au sommet, il y a la tragédie héroïque, tragédie antique, et puis en dessous, vous avez la tragicomédie, puis la comédie de mœurs, puis la farce. Quand on est devenu le grand poète national, on n'a plus le droit d'écrire des comédies. C'est un genre secondaire et vide.
D'autant que le roi préférait les comédies.
Et le roi préférait les comédies, soutenait Molière. Et ça, pour Corneille, ça avait 3 avantages. Le premier, ça lui permettait de continuer à écrire des comédies que Molière endossait. Le deuxième, ça lui permettait de régler ses comptes avec les précieuses, avec les faux dévots, avec tous ceux qui lui avaient ruiné sa carrière. Ah, grâce à Molière, il leur réglait leurs comptes. Et puis troisièmement, ça lui rapportait effectivement de l'argent, et même beaucoup d'argent. Et l'on sait, ça n'est pas le plus grand trait de caractère de ce personnage, mais on sait que Corneille aimait beaucoup l'argent.
Alors, quand on relit, dites-vous, les premières œuvres de Molière, on se rend compte que la prose est toujours simple, souvent gauche.
Oui, même grossière, disons-le.
Parfois même impropre.
Oui. Hein.
Pire, il n'était pas plus inspiré lorsqu'il devait présenter ses compliments à Madame Belson.
Oui, ça
du
c'est
roi.
Très drôle, oui.
Et vous avez raconté une anecdote sur la dédicace de l'école des femmes.
Ouais, la dédicace est une calamité, en fait.
Il sait pas comment dédicacer ses livres.
Il sait pas comment faire. D'ailleurs, il est pas dans le ton, quoi. Il est ailleurs, et la façon dont il parle à la belle-sœur du roi est une chose tout simplement dramatique. Et d'ailleurs, Pierre-Louis,
je suis le plus embarrassé d'homme du monde lorsqu'il me faut dédicacer un livre.
Oui, c'est ça.
Hein, voilà.
Et je me trouve si peu au fait, au style d'épître dédicatoire, que je ne sais par où sortir de celle-ci, dit-il. Alors que c'est, comme le fait remarquer Pierre-Louis, il entre là, il ne sort pas. Vous voyez. Un autre auteur qui serait en ma place trouverait d'abord 100 belles choses à dire à votre Altesse royale sur ce titre de l'école des femmes et l'offre qu'il vous en ferait. Bref, c'est catastrophique.
Et Pierre-Louis commente, nous comprenons mal qu'après avoir écrit la pièce, Molière soit incapable d'en commenter le titre.
C'est vrai que c'est bizarre et c'est dommage. D'autant plus que toutes ces pièces sont bourrées de références. C'est tout à fait extraordinaire. Je pense par exemple au Tartuffe qui est... Dans le Tartuffe, vous trouvez plus de 100 références à l'introduction à La vie dévote de François de Sales. Et or, Molière n'a jamais lu François de Sales. En revanche, Corneille, lui, non seulement l'a lu, mais il l'a traduit.
Est-ce qu'il y a des indices qui ont filtré sur cette collaboration du vivant de Molière? Je crois que oui, il y a l'éditeur. Hein, l'éditeur qui s'appelle Quinet.
C'est ça, oui, il y a deux indices. Ça c'est pour la préface de Psyché. Effectivement, il se trouve que Psyché est une comédie ballet, donc il y a des intermèdes musicaux. Et les intermèdes en question, ils ont été écrits par Quinault. Ce qui fait que Quinault a exigé de l'éditeur qu'on précise sa participation. Mais du coup, l'éditeur a dû tout dire. Alors il a dit, cette pièce a été troussée, on en a donné le schéma, ça c'est Molière, mais les vers ont été faits par monsieur Pierre Corneille. Dit-il.
Et les droits,
ça c'est un aveu.
Et les droits d'auteur à l'époque, ils se les partageaient?
Mais il n'y avait pas de droits d'auteur.
Mais
c'est toute la question.
Eh oui, bien
les
sûr.
Droits d'auteur, ils arrivent plus tard avec Beaumarchais.
Bien sûr, bien sûr.
À l'époque, il n'y a pas de droit d'auteur, il y a simplement les droits de vente des pièces au moment où on les joue. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour toutes les comédies de Molière, vous avez 2 parts d'auteur. Pourquoi 2 parts d'auteur? Il y en a une pour Molière, c'est sûr, mais l'autre à qui va-t-elle? Vous savez, ce qu'il faut bien dire, parce que
Corneille était riche.
Non, Corneille a toujours vécu et dans la gêne. Molière était très riche, évidemment.
Ah oui.
Très riche.
Il avait des commandes du roi.
Infiniment. Et puis, il gagnait beaucoup d'argent. Et il avait aussi beaucoup de pièces qui étaient jouées à la ville, hein, et qui lui rapportaient beaucoup d'argent. Corneille, lui, était dans la gêne. Donc, on peut expliquer ça. Ce qu'il faut bien dire, c'est que, à cette époque, Molière n'est pas du tout considéré comme un auteur. Vous savez, ce n'est pas un écrivain. Il est considéré comme comédien et chef de troupe. Personne. D'ailleurs, c'est, entre nous soit dit, c'est incroyable qu'un personnage comme Jean-Laurent Cochet, qui représente en France, je dirais, l'héritage même de Molière, accepte cette thèse. C'est tout à son honneur et il n'est pas le seul. Je sais que cette thèse est en train, peu à peu, de faire son chemin. Les gens l'admettent et on va finir par comprendre quel grand auteur était Pierre Corneille.
Ouais, mais ça veut dire également que Molière était intouchable.
Mais évidemment, il avait la protection totale du souverain, immédiate.
C'est assez extraordinaire que Jean-Laurent Cochet dit, ben finalement, c'est un grand comédien, point. Il n'a pas écrit ses pièces, et alors?
Et alors, puisqu'à l'époque, personne n'a pensé qu'il les écrivait. Vous savez qu'il y avait quand même une institution à l'époque qui s'appelait l'Académie française, que tous les écrivains qui de près ou de loin travaillaient pour le roi étaient à l'Académie française. Jamais personne n'a songé à élire Molière à l'Académie. Je vais même vous dire une chose. Il y avait un journal à l'époque qui s'appelle la Gazette de France. Pendant 16 années de faveur royale de Molière, 16 années, pas une seule fois, la Gazette de France n'a cité son nom. Pas une seule. Je défie quiconque d'aller le trouver. Je défie même quiconque de nous trouver une ligne écrite de la main de Molière. Et là, puisque nous sommes à la radio, profitons-en. Que si quelqu'un est capable de me trouver une ligne écrite de la main de Molière, qu'il nous la montre. Personne n'a jamais pu en trouver. On n'a ni manuscrit, ni autographe, ni quoi que ce soit. On a simplement 3 bouts de signature au bas d'actes notariés. Voilà tout ce qu'on a de l'œuvre de Molière. On n'a même pas une lettre de lui qui se serait...
Dernière question, ils étaient amis tous les deux, Corneille et Molière?
Ben, en tout cas, ils collaboraient de près. Il y avait une grosse différence d'âge entre eux. Hein. Corneille était bien plus âgé que Molière, même s'il est mort bien après Molière. Il y avait forcément une grande complicité, car...
Michel Drucker et Franck Ferrand.
Alors, révélation de poids dans votre livre, L'Histoire interdite, paru chez Taillandier. Franck Ferrand, c'est Alésia et la Bourgogne. Alors, on rappelle ce site de l'histoire de la nation française, rendu célèbre par le fameux passage de la guerre des Gaules.
Mais oui, en fait, en 52 avant Jésus-Christ, c'est la guerre totale entre Romains et Gaulois. Il se trouve que c'est Rome qui l'emporte, c'est Jules César qui l'emporte sur Vercingétorix, et comme les Romains apportent avec eux l'écriture, c'est le début de l'histoire de France. La première page de l'histoire de France, c'est Alésia. Alors, vous savez que pendant très 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 longtemps...
Puisque et c'est un des sujets de querelle en permanence.
En permanence, parce que on ne savait pas où c'était, cette Alésia. César a fait raser la ville, il l'a fait brûler, il a défendu qu'on utilise jusqu'à son nom. Donc elle a carrément disparu. Et pendant très très longtemps, on s'est dit, mais où est-ce Alésia? Et puis, sous le Second Empire, Napoléon III, par décret impérial, s'il vous plaît, c'est complètement fou, Napoléon III décide que le site d'Alésia, l'endroit où a eu lieu le siège, l'endroit où s'est déroulée la bataille, c'est en Bourgogne.
À 70 km au nord-ouest de Dijon.
Exactement, en pleine, on est dans Côte d'Or.
Alors, mais c'est après une campagne de fouilles qu'il a...
Alors, c'est en même temps, disons, oui.
Décidé ça, là.
Alors, on a retrouvé incontestablement à Alice-Saint-Rel un certain nombre de vestiges gallo-romains et gaulois, du reste, mais aussi des vestiges de sièges. Donc, personne ne conteste qu'il y a eu des sièges menés par des Romains à Alice-Saint-Rel en Bourgogne. Ça, c'est certain. Maintenant, est-ce que c'est bien le siège d'Alésia dont on parle, ça c'est tellement moins certain que moi je suis en mesure aujourd'hui de vous affirmer que non. Or c'est très grave et très important, parce que l'État, avec la région, avec l'Europe, avec le département de Côte d'Or bien sûr, viennent de lancer un programme très important pour la création d'un archéodrome national, l'archéoparc Alésia, qui devrait ouvrir en 2011. Là, rien que la première tranche des travaux, c'est 50 et quelques millions d'euros. Là, c'est lancé. On va donc construire une sorte de grand musée national d'Alésia sur un site où n'a jamais eu lieu la bataille d'Alésia.
Alors, il y a deux sites. Il y a Alice Saint-Rêne en Côte d'Or. Et ça, c'est la thèse des scientifiques. Hein,
oui, c'est la thèse officielle.
Et Chaud des Crotenay-Siam dans le Jura.
Exactement. Alors ça, c'est moins connu. Ce qui s'est passé...
Vous avez visité les deux sites?
Oui, évidemment, de très nombreuses fois. Ce qui est passionnant dans cette affaire, c'est que dans le cas du site jurassien, il a été découvert sans a priori. Tous les autres, vous savez qu'il y a plus de 200 villes et villages en France qui réclament le site d'Alésia, hein, qui revendiquent la bataille. Bon, simplement, c'est toujours des querelles de chapelle. On vous dit, mais non, c'était chez nous, c'était à Alès, c'était à Salins, c'était bon. En l'occurrence, il y a un grand archéologue, il s'appelait André Berthier, il était directeur du département d'archéologie de Constantine en Algérie à l'époque, dans les années 60, on est en pleine guerre d'Algérie, il peut pas faire de fouilles là-bas, donc pour meubler ses loisirs, il se dit, tiens, je vais m'intéresser à cette histoire. Donc il reprend le seul texte qu'on ait, qui est le texte de la guerre des Gaules de César. Sublime texte latin que connaissent les collégiens et les lycéens qui ont fait un peu de latin. Bon, il reprend le texte, et mot à mot, il prend toutes les indications qui, dans ce texte, désignent le site d'Alésia. Et il établit, grâce à ces indications, qui sont très précises, hein, faut pas oublier que César était un militaire, hein, c'est très très précis, il établit un portrait robot. Il se fait livrer par ses copains de la préfectorale à Paris, il se fait livrer toutes les cartes d'état-major de l'Est de la France. Et il va comparer son portrait robot aux 200 auteurs que l'on repère dans tout l'est de la France. Alors il compare, à chaque fois il y a un truc qui va pas, une fois c'est la montagne qui n'est pas à la bonne hauteur, une fois il manque une rivière, enfin il y a toujours un détail qui cloche. Et puis à un moment, et ça a dû être une émotion, je sais pas si vous imaginez, il est là dans son bureau à Constantine, il doit faire très chaud, il met son portrait robot, il le superpose à un site qui s'appelle donc Siam Chaud des Crotenay, un endroit totalement perdu, inconnu en Haut-Jura. Et là, tout coïncide. C'est-à-dire que, vous avez toute la description de César au détail près. Tout est là. Et 2000 ans plus tard, rien n'a bougé. Alors que fait André Berthier? Ben, dès les vacances suivantes, en 62, il débarque sur place. Et là, il est sidéré. Tout ce qu'il voit correspond exactement au texte césarien. Et mieux que ça, on commence à faire des petites fouilles, des premiers sondages, et on découvre énormément de matériel archéologique de toutes sortes. Donc ça devient pour lui l'affaire de sa vie. Il a découvert, sans aucun a priori, lui il est originaire de l'Oise, hein, donc sans aucun a priori, il a découvert le vrai site d'Alésia. Alors au départ, il pense qu'on va le féliciter, qu'on va applaudir, mais pas du tout. Il se heurte immédiatement à tous nos grands professeurs du Collège de France, de l'École pratique des hautes études. Il se heurte à tous nos grands archéologues. La Direction nationale de l'archéologie refuse absolument d'entendre ce qu'il a à dire. Et même si quelques ministres de la Culture successivement lui donnent des autorisations de sondage, ces gens-là eux-mêmes se heurtent à leurs services qui ont décidé une fois pour toutes qu'on étoufferait cette affaire et qu'on continuerait de mettre en avant le site bourguignon.
Alors, bon, revenons à cette bataille d'Alésia, hein, et la défaite de Vercingétorix. Vous écrivez, 6 légions sont là, il y a
72 000 hommes.
Voilà, 95 000 hommes, 15 000 cavaliers, 80 000 fantassins.
Ça, c'est du côté gaulois.
Et les 10 ou 12 légions César, 72 000 hommes. Il faut qu'il y ait un terrain suffisamment grand.
Ah oui, ça me rappelle, vous savez, la première fois que je suis allé,
on les met où tous ces,
j'avais une vingtaine d'années, la première fois que j'ai mis les pieds en Bourgogne sur le site d'Alice Saint-Reine. Alors j'étais très ému parce que bon, c'est le lieu de naissance de l'histoire de France, c'est fascinant. Puis en même temps, je me disais, mais c'est pas possible, c'est petit, y a pas de relief, y a rien. Et quand je dis c'est petit, le plateau d'Alice Saint-Reine, le plateau du Mont Auxois, mesure 97 hectares, dont 50 urbanisés. Donc la ville même, censée être la ville d'Alésia des Monts du Bien, fait 50 hectares. Et vous logez dans 50 hectares 80 000 fantassins, 12 à 15 000 cavaliers avec leurs montures, 15 000 chevaux, 30 à 40 000 têtes de bétail et toute la population d'Alésia. Mais vous les collez où? Ils sont comme des sardines en boîte. Et vous imaginez les déchets, les organiques qu'il peut y avoir là-dedans. Tout le monde doit patauger dans la fange. C'est tout simplement impossible. Et puis d'ailleurs, il y a un autre élément. C'est que vous avez très peu de sources et de puits sur ce plateau. Comment vous trouvez le million de litres d'eau nécessaires à abreuver toute cette population chaque jour? C'est tout simplement impossible. Eh bien, on a beau montrer ça aux spécialistes. Eh bien, ils n'en continuent pas moins d'aller dans le sens d'Alice Saint-Reine, et vous avez des personnalités très importantes et très respectables qui ont mené des fouilles pendant des dizaines d'années sur place et qui continuent à vous dire, aucun doute, c'est bien le site d'Alésia. Les yeux vous en tombent, je vous assure, les bras vous en tombent plutôt, pardon, je sais même plus où j'en suis. Les bras vous en tombent quand vous voyez un tel acharnement à défendre l'indéfendable. Et Allez. Là, il faut le dire, et il faut que l'État prenne ses responsabilités. Pourquoi ? Parce qu'un grand auteur, qui s'appelle Diodore de Sicile, nous dit que ce site de l'Alésia des Monts du Bien était la principale ville et le grand foyer religieux de toute la Celtique, c'est-à-dire la ville sainte des Gaules. Donc il faut fouiller ce site, car actuellement dans le Jura, sommeille, loin de tout le monde, le plus grand site archéologique d'Europe.
On reprend notre souffle, Franck. On reprend notre souffle.
Pardon, je m'énerve
un peu. Une respiration musicale.
Recevons Franck Ferrand pour son livre de révélation. Franck, un vrai passionné, hein, Michel.
Franck Ferrand, vous écouterez pendant des heures. Allez, en 6 minutes, il faut qu'on termine avec le site d'Alésia, qu'on dise un petit mot de Jeanne d'Arc qui a été manipulée, dites-vous, et puis l'affaire Dreyfus qui cacherait une autre affaire. Alors, on revient sur Alésia. Les fouilles qui ont été publiées en 89, qui ont été décidées par Napoléon III. Est-ce qu'elles ont été truquées, ces fouilles, alors ?
Ah oui, incontestablement. Mais alors là, on a un très grand nombre d'éléments qui nous permettent de le dire. Effectivement, un certain nombre d'archéologues peu consciencieux, qui étaient d'abord des courtisans, ont tout fait pour donner satisfaction à l'empereur Napoléon III. C'est-à-dire que on a, comme par hasard, découvert au bon endroit des poignées de monnaie qui correspondent quasiment au pourcentage près à la proportion des composantes de l'armée gauloise. On a découvert toutes sortes de vestiges. On
a même découvert des armures, des pièces de monnaie. Oui.
Alors les lances en question, entre parenthèses, elles sont toujours dans des caisses au sous-sol du musée des Antiquités Nationales à Saint-Germain-en-Laye. Personne n'a jamais pu les voir, et quand on demande l'ouverture et quand on demande à les voir, ben il y a toujours une bonne excuse et personne ne les a vues.
Voilà, il y a un grand archéologue en 67, s'appelle Pigagnol.
Pigagnol, oui.
Pigagnol, qui parle carrément de trucage.
De tripatouillage, il dit, oui, tout à fait.
Et Jean-Baptiste Colbert de Beaulieu,
oui, c'est ça.
Dit la même chose.
Oui. Donc, en fait, mais parce que tous les gens très sérieux sur cette affaire savent très bien que les fouilles qui ont été menées sous Napoléon III ne sont pas sérieuses. En revanche, depuis 1906, on a mené des fouilles très sérieuses sur le Mont Auxois en Bourgogne. Et c'est vrai qu'on a découvert des choses, ça c'est incontestable.
Mais c'est pas forcément la bagarre.
Mais c'est pas, eh ben, c'est ça. Bien. À partir du moment où vous trouvez les vestiges d'un siège, vous vous dites, alors, est-ce que c'est ou non celui d'Alésia? Le seul moyen de le savoir, c'est que la plume prenne le pas sur la pioche. C'est-à-dire que les textes viennent vous éclairer. Bien Or, sûr. Quand vous prenez les textes, il n'y a plus rien qui correspond. On vous dit, parce que ça c'est César qui le dit, il nous dit qu'il y a en antéidopidum, c'est-à-dire en avant de l'oppidum, il y a une grande plaine de 3000 pas, 4,5 km. Où est-elle cette plaine au Mont Auxois? Alors on nous dit c'est la plaine des Laumes, mais la plaine des Laumes, elle n'est pas du tout en avant de l'oppidum, et elle n'est pas tout en longueur, in longitudinem, elle n'est pas tout en longueur. César nous dit que deux rivières, il ne parle pas de ruisseau, il dit bien de rivières, lèchent les racines du promontoire, nous dit-il. Où est le promontoire? Où sont les racines? Où sont les rivières? Alors il y a l'Ose et l'Oserin, effectivement, à Saint-Rennes, mais elles sont loin du plateau et elles ne sont pas du tout, elles ne lèchent rien du tout, enfin, etc., etc. Ce qui est très important dans cette affaire, il y a deux choses, parce que vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'il s'excite comme ça sur une histoire qui a 2000 ans maintenant, après tout, ça ne nous empêchera pas de vivre, mais il y a quand même deux sujets. D'une part, on s'est beaucoup trompé dans l'interprétation qu'on a donnée du siège et de la bataille même d'Alésia. On nous présente toujours une sorte de Vercingétorix qui fuirait devant les légions romaines, qui s'est laissé enfermer dans Alésia et qui a été complètement battu à plate couture par César. Ce n'est pas la vérité historique. La vérité historique, c'est que, avec un génie stratégique exceptionnel, Vercingétorix avait réussi à attirer les légions de César qui, elles, étaient en fuite, à les attirer dans un goulet montagneux extrêmement bien défendu, qu'il avait réussi à créer ce qu'on appelle un abcès de fixation, et il était prêt à comprimer les légions romaines grâce à une armée de secours.
Alors, si Napoléon a décidé, voilà,
Napoléon III a décidé
Napoléon III, que cette bagarre, cette bataille d'Alésia avait eu lieu là-bas en Bourgogne. Il avait peut-être des raisons historiques également.
Oui, alors en fait Napoléon III d'abord a choisi entre deux sites essentiellement qui étaient Alèze en Franche-Comté et Alise en Bourgogne. Pourquoi ? Parce que ça faisait penser au nom d'Alésia. Il avait une commission, hein, bien entendu, qui était dirigée par Coignard.
Il n'y avait pas une identification à une figure idéalisée
de Vercingétorix. Ah ben ça, c'est toute la raison de la passion de Napoléon III Geoffroy pour cette question, c'est que d'une part, il reprenait les travaux de son oncle Napoléon Ier sur Jules César, et que d'autre part, il s'identifiait évidemment à Vercingétorix, parce que c'était le rassembleur du peuple français. Vous voyez, il y avait un côté nouveau Vercingétorix chez Napoléon III, ça c'est certain. Et puis il y avait peut-être une raison aussi, c'est que Napoléon III était en train de lancer une ligne ferroviaire, vous savez, le chemin de fer jusqu'en Bourgogne, et que c'était assez pratique finalement qu'on puisse aller en train jusqu'à Lys-Saint-Rennes. Juste pour finir, Michel, je vous promets un mot. La deuxième raison de s'énerver sur cette affaire est de défendre et de faire le plus grand battage possible. Et je demande aux auditeurs de se faire les relais de cette affaire. S'il faut beaucoup parler de cette histoire, c'est qu'il faut aller fouiller le site de Chaux-des-Crotenay dans le Jura. Mmh. Il y a là des vestiges fabuleux. Moi, j'ai vu personnellement, et je l'ai vu souvent, un mur qui mesure 6 kilomètres de long, qui est composé d'énormes moellons, qui sont gros comme cette table, des choses gigantesques. C'est un mur cyclopéen du 9e siècle avant Jésus-Christ. Eh bien, si vous regardez aujourd'hui la carte archéologique du Jura, les documents officiels du ministère de la Culture, on vous dit que c'est un muret agricole du 19e siècle.
Allez, on n'a plus qu'une minute trente. Je vous renvoie au livre pour voir si une affaire Dreyfus ne cachait pas une autre affaire. Un petit mot, pourquoi Jeanne d'Arc avait-elle été manipulée à votre avis ?
Alors, ça c'est pas une très grande révélation, mais simplement, Jeanne d'Arc n'est pas la petite bergère qui débarque toute seule à Chinon et qui va sauver la monarchie et le royaume de France. Ça n'est pas vrai, ça c'est une histoire à dormir debout. La réalité, c'est que Jeanne d'Arc, et je ne remets pas en cause ses visions, je ne remets pas en cause le fait qu'elle fût sainte. Simplement, Jeanne d'Arc a été soutenue, a été financée, a été guidée, a été accompagnée pendant toute la première partie de son épopée jusqu'au sacre de Reims. Il y avait derrière elle une personnalité fascinante qui est celle de la reine Yolande d'Aragon, qui était la belle-mère de Charles VII, c'est elle qui tenait tous les fils dans l'ombre, et c'est elle qui s'est servie de cette petite comme d'une sorte d'emblème pour remporter des victoires.
En deux mots, c'est une opération de com' avant l'heure.
Exactement.
Jeanne d'Arc n'a pas renversé Orléans toute seule.
Mais non, évidemment, bien entendu. Il y avait beaucoup de monde autour et avec, et tout ça était programmé. On avait même annoncé son arrivée à Orléans alors qu'elle partait tout juste du village de Don Rémy. Donc vous voyez, tout ça était, comme on dit, cousu de fil blanc.
Je vous renvoie tous à l'histoire interdite, révélation sur l'histoire de France qui vient de paraître aux éditions Taillandier. Merci beaucoup Franck Ferrand.
Merci à vous.
Alors, je vous souhaite un bon week-end. Lundi, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, notre avenir à travers l'agriculture biologique. Je recevrai le réalisateur Jean-Paul Jaude qui viendra nous parler de son film intitulé « Nos enfants nous en voudront » qui sort en salle mercredi. Il raconte l'histoire d'un petit village du Gard qui décide d'introduire le bio dans la cantine scolaire. Mais je recevrai également des médecins, des scientifiques. Avec eux, on va parler agriculture biologique et santé publique. Bon week-end, Amélie.
Bon week-end, Michel. Et dans un instant, ce sera Jean-Marc Morandini.
Europe 1.fr a changé. Europe 1 évolue. Connectez-vous sur la page des podcasts d'Europe 1 pour découvrir nos nouvelles chaînes podcast.
Europe 1.fr/radio. Europe 1.fr.